Il est 12h à Kinshasa et c'est l'heure de nous informer.
Radio Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Au Nord Kivu, des milliers de déplacés de guerre hébergés dans des salles de classe au chef-lieu du territoire des Masisi vivent dans des conditions extrêmement difficiles depuis la rentrée scolaire. Chaque matin, ils sont contraints de libérer les locaux pour permettre aux élèves de suivre les cours. Au Kasaï oriental, baisse des taux d'échange des dollars en Mbujimayi. Certaines familles ne se sont pas procurées la nourriture parce qu'elles possèdent la monnaie en dollars. Les opérateurs économiques de leur côté affirment n'avoir pas effectué de bonnes affaires. Notre invité est M. Raphaël Mushanga Kalume Kasambi. Il est coordonnateur national de l'ONG de Congo Action et point focal de l'ONG Congo Bassin Conservatoire Society, qui est membre de la société civile environnementale. Cette structure vient de doter la province du Maniema d'une stratégie provinciale sur l'agroécologie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée. Ce journal part du Nord Kivu, où des milliers de déplacés de guerre, hébergés dans des salles de classe au chef-lieu du territoire des Masisi, vivent dans des conditions extrêmement difficiles depuis la rentrée scolaire. Chaque matin, ils sont contraints de libérer les locaux pour permettre aux élèves de suivre les cours. Cette situation est d'autant plus précaire que la saison des pluies a commencé. De nombreuses mères et leurs bébés se retrouvent exposés aux intempéries, ce qui est à l'origine de nombreuses maladies. Ces déplacés épuisés par ces conditions de vie difficiles lancent un appel urgent pour obtenir un abri décent en attendant de pouvoir regagner leur village. Plus de détails avec André Katendi.
Dans l'enclos de l'école conventionnée catholique Sainte-Cécile du Massissi Centre, par exemple, les biens des déplacés sont entassés. Depuis début septembre, chaque matin au réveil, ces familles doivent rassembler leurs affaires et libérer les salles de classe pour permettre aux élèves d'étudier. Selon ces témoignages, c'est un exercice particulièrement difficile, surtout pour les familles avec de très jeunes enfants qui sont contraintes de se retrouver à l'extérieur, même sous la pluie.
Nous vivions dans les salles de classe, mais depuis la rentrée scolaire, nous passons les journées dehors avec nos enfants. Nous ne savons quoi faire. C'est à 13h que nous pouvons rentrer dans les salles de classe. Même la pluie nous trouve dehors, c'est vraiment difficile. Dans ces conditions, je peux tomber malade et même mon bébé peut avoir la fièvre. C'est très difficile.
Plus d'une dizaine d'écoles en Masisi Centre continuent d'héberger des déplacés depuis plusieurs mois. Ces déplacés aspirent au retour au calme dans leur village situé aux alentours des Masisi Centre afin de pouvoir regagner leur foyer et enfin oublier ces calvaires.
En Ituri, pendant ces temps, la vie est paralysée dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Trois jours après l'embuscade meurtrière tendue par les miliciens de la Codeco contre un convoi de civils escortés par les FARDC Alida, trafic, écoles et activités agricoles sont fortement perturbés, tandis que la société civile redoute une flambée des prix des produits de première nécessité. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Selon le président de la société civile de Badjiré, le trafic entre le centre commercial de Boulé et plusieurs localités voisines reste interrompu. Des enfants ne peuvent plus se rendre à l'école, la zone étant infestée par des miliciens. Les déplacés ainsi que les commerçants de Bloukoua et du site de Ro n'osent plus traverser l'Ida pour s'approvisionner à Boulé. Zone agricole importante, l'Ida n'est plus accessible aux paysans. Une situation qui, redoute la société civile, pourrait entraîner une pénurie de produits de première nécessité et une flambée de prix. Pour Désiré Malodra, la solution passe par l'installation d'une position des forces coalisées FARDC armée ougandaise afin de sécuriser la zone.
Il faut nécessairement qu'il y ait une opération militaire dans cet endroit qui doit être suivie de l'installation maintenant des camps militaires à Lida. Ça créerait vraiment une bonne sécurité dans cette zone-là, qui est une zone capitale, que ce soit les membres de la communauté Lendu, que ce soit les membres de la communauté Emma, parce que pour passer des djihadistes à Pit, on doit passer par Lida. Pour passer de Bahama Nord à Bahama Bajer, on doit passer toujours par Lida.
L'administrateur du territoire de Djougou reconnaît la situation et souligne l'urgence de déployer davantage de militaires pour restaurer l'autorité de l'État dans la zone. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, le calme est revenu ce vendredi sur les sites miniers de Moussebe, secteur nord Lukuga, en territoire de Nyunzu. D'après des sources locales, des affrontements ont opposé ce jeudi des éléments des FARDC appuyés par des Wazalendo locaux à un groupe de personnes qui s'identifient aussi comme des Wazalendo venus du Maniema. L'administrateur assistant du territoire de Nyunzu confirme l'information et souligne que, pour le moment, il n'y a pas de bilan de ces affrontements. Mais d'autres sources rapportent la mort d'une personne. Au Kasaï oriental, nous le disions en titre, baisse de taux de change de dollars en Mbujimayi. Certaines familles ne se sont pas procurées la nourriture parce qu'elles possèdent la monnaie en dollars. Les opérateurs économiques affirment n'avoir pas effectué de bonnes affaires. Les cambistes en Mbujimayi disent ne pas être épargnés par cette instabilité du taux de change de dollars. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis mercredi dernier que le cours de change des dollars par rapport au franc congolais est de plus en plus instable au niveau des banques et sur le marché noir, donc auprès des cambistes. Au niveau des banques, par exemple, mercredi et jeudi dernier, les taux de vente pour 1 dollar étaient fixés d'abord à 2887 puis 2650 francs congolais. Suite à cette instabilité, les banques ont suspendu la vente des francs congolais. Quelques conséquences se font déjà sentir vendredi dernier. Certaines familles ne se sont pas procurer la nourriture au marché.
Je savais pas quoi dire, non, pour aller payer à manger. M'avait donné l'argent en dollars. Je suis arrivée au rond-point, les cambistes ont refusé de m'échanger l'argent. J'ai beaucoup souffert.
Les opérateurs économiques affirment que les taux d'échange a également un impact négatif sur la vente en gros de leurs marchandises.
Nous sommes avec la marchandise, nous sommes là, mais les clients ne viennent pas.
Du côté des cambistes, cette instabilité de cours de change a actuellement perturbé leur opérations.
On était à 295, mais à présent on travaille 270, 65, même 75. Jusqu'à là, la banque n'a pas fixé les taux.
Pendant que le taux d'échange de dollars est en baisse, les denrées alimentaires n'ont pas changé de prix sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
La République démocratique du Congo va bénéficier de 3 500 000 dollars pour promouvoir son commerce sur le plan international. Ce montant est décroché par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, par le biais des experts de son ministère dépêché aux travaux du Forum global du cadre intégré renforcé. C'est un partenariat international visant à aider les pays moins avancés à renforcer leurs capacités commerciales pour stimuler leur croissance économique et réduire la pauvreté. Cela grâce au financement de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement ainsi que l'Organisation mondiale du commerce. Cette réunion s'est tenue du 15 au 16 septembre dernier à Genève en Suisse, mais l'annonce a été faite hier vendredi. On écoute les explications de Gilles Mouilumbo, secrétaire général au commerce extérieur, dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le commerce est un instrument, un levier essentiel pour le développement des pays les moins avancés. Et certains pays qui ont bénéficié de ce programme ont su quitter la zone des pays les moins avancés pour accéder à l'autre zone qui est le pays en développement. Et donc nous avons cette ambition-là. Les faire du commerce réellement un instrument de développement de notre pays, d'autant plus que nous avons différents marchés, notamment le marché d'Asie et CAF, qui va également bénéficier de ce projet, qui va à travers des innovations, à travers le développement du commerce numérique, à travers l'amélioration des filières porteuses de croissance, pour que nous puissions réellement nous intégrer aussi bien dans le système commercial multilatéral que dans l'Asie et CAF. À ce jour, le CAF dispose de plus de 200 millions de dollars pour financer les pays les moins avancés. Mais comme il s'agit d'un programme inclusif qui qui va intégrer différents aspects qui concourent à la promotion du commerce. Donc nous allons travailler non seulement avec le secteur privé, mais également avec d'autres ministères, avec d'autres structures qui interviennent, comme le commerce est transversal. Nous allons travailler avec toutes les instances qui sont concernées justement par la promotion et le développement du commerce.
Au Nord Kivu, quelques dizaines d'enseignants de la zone de Oufou-Mandou menacent d'aller en grève. C'est dans le territoire de Massissi, selon les responsables de l'enseignement dans la zone. Ces derniers dénoncent les monnayages de l'opération de contrôle physique menée du 20 au 23 septembre dernier par la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 3 Walikale dans leur zone. Les détails avec vous, Jean Ganduka Bongo.
Dans une correspondance adressée à la division cette semaine, ces enseignants de Oufou-Mandou, secteur de Katoy, accusent un inspecteur de leur avoir exigé 10 000 francs congolais par enseignant pour être contrôlé, ce alors qu'ils viennent de passer plus de 4 mois sans salaire. Cet incident a affecté environ 100 enseignants d'au moins 20 écoles de cette partie du territoire de Massissi, ajoutent nos sources. Contacté, le chef de la division de la sous-division de l'EPST Massissi 4 confirme être au courant de cette plainte. Tout en appelant ses enseignants au calme, ce cadre de l'enseignement informe que l'inspecteur incriminé qui a agi sous ses propres initiatives est déjà suspendu et des mesures disciplinaires sont déjà prises contre lui. Pour lui, cet incident est arrivé alors que le ministère national de l'EPST avait déjà partagé un arrêté interdisant toute perception d'argent dans le cadre de cette opération de contrôle physique. Une opération ayant, dit-il, l'objectif de réactualiser les listes des enseignants de l'ensemble du pays.
Merci beaucoup Jean Gandou ou Kabongo. Ce journal se poursuit dans la province de la Tchopo où l'on s'achemine peut-être vers une réduction drastique des cas d'accidents routiers dans cette province en général et dans la ville de Kisangani en particulier. En effet, la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière a clôturé vendredi le recyclage pour la première vague d'au moins 500 conducteurs de moto-taxis. Ces derniers ont reçu des brevets de participation, symbole d'acquisition des matières relatives au code routier. Un reportage de Jacques Moukonkole.
L'organisation de cette session était nécessaire car la plupart des accidents survenant sur la voie publique sont dus à l'ignorance du code routier. Afin d'atteindre la majorité de leurs cibles, les instructeurs ont utilisé le Lingala, comme l'explique Jasmin Yafunga Lokomba, directeur provincial de la CNPR.
Ça nous a permis normalement d'atteindre les concernés en faisant tout ce qui était essentiel pour qu'ils soient satisfaits. En majorité, vous pouvez même checker certains parmi eux, ils vous diront qu'ils sont sortis avec une matière bien appropriée qui cadre la formation des codes de la route.
Les 500 participants à cette première vague ont reçu chacun une carte à intégrer désormais dans l'ensemble des documents exigés par les éléments de la police de circulation routière. Ils se disent satisfaits de la formation reçue.
En tout cas, je suis ravi d'avoir passé cette formation. J'ai appris à les signaux routiers et à bien me comporter sur la route.
Je suis content d'avoir suivi la formation. On nous a conseillé de ne pas boire pendant nos activités. On ne doit pas exagérer des vitesses et on doit être prudent sur la route.
La deuxième vague sera reçue à partir de la semaine prochaine. La durée prévue pour cette campagne de recyclage est de 3 mois. Ensuite, interviendra le contrôle des documents sur la voie publique par la PCR. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Après la production de maïs, la construction d'écoles, des centres hospitaliers et la distribution des bancs aux écoles, universités et instituts supérieurs du pays, le service national va désormais habiller les militaires et policiers congolais. Il ouvre en décembre 2025 un atelier national de confection des tenues militaires et policières. Cet atelier, tenu par d'anciens délinquants devenus bâtisseurs de la nation, produira 2000 tenues par jour, 700 000 par an. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, le commandant du service national qui est descendu en Sélé pour inspecter les travaux de construction de cet atelier. Tous les matériels sont déjà ici au pays. L'atelier sera inauguré d'ici décembre, rassure-t-il. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous attendons que le mois prochain, on amène des bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon. Il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement. Donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Comme ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. 2000. Tous les deux jours, vous avez des tenues pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tonnes annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tenue, deux tenues ou trois tenues par personne par an.
Actualité internationale.
Le couvre-feu instauré cette nuit dans la plupart des grandes villes de Madagascar pour empêcher les pillages a été levé après une nuit globalement calme, notamment à Antananarivo. Une nouvelle journée de mobilisation pacifique est annoncée samedi 27 septembre à l'appel du collectif Géant Z Madagascar dans la capitale contre les coupures d'eau et électricité et pour la défense des libertés fondamentales.
L'invité.
Notre invité, c'est Monsieur Raphaël Mushanga Kalume Kasambi. Il est coordonnateur national de l'ONG des Congo Action et point focal de l'ONG Congo Bassin Conservation Society, qui est membre de la société civile environnementale. Comme vous le savez, cette structure vient de doter la province du Maniema d'une stratégie provinciale sur l'agroécologie. Dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga, Raphaël Mushanga Kalume Kasambi nous parle de l'importance de ces documents dans une zone comme Kindu. Suivez.
Monsieur Raphaël Mushanga Kalume, bonjour.
Bonjour, madame.
CBCS, vous dotez aujourd'hui la province du Maniema de sa propre stratégie provinciale sur l'agroécologie. C'est quoi son importance?
L'importance de cette stratégie vient relever les défis environnementaux, les défis socio-économiques, culturels, institutionnels. Cette stratégie représente et vient concilier la sécurité alimentaire, la résilience climatique, et la préservation des ressources naturelles d'une province riche en potentialités, mais soumise à de fortes pressions humaines et environnementales. Donc, la province du Maniema, nous avions constaté qu'il y a de fortes pressions anthropiques vis-à-vis de nos forêts.
Alors, qu'est-ce qui est contenu dans la dite stratégie?
Le contenu dans cette stratégie, il y a quatre axes prioritaires. La transition productive et durable. Là-bas, nous voulons faire une promotion de l'agroforesterie, de cultures associées à l'élevage, de diffusion des pratiques de conservation des sols et de l'eau comme premier axe. Le deuxième axe vient renforcer des capacités de savoirs locaux, c'est-à-dire quoi? La capitalisation des savoirs endogènes et les innovations paysannes. Et le troisième axe repose sur la gouvernance et cadre institutionnel, c'est-à-dire l'intégration de l'agroécologie dans les politiques agricoles provinciales, nationales. Autrement, nous allons faire dans cette stratégie le renforcement des organisations paysannes, coopératives, les organisations féminines, les organisations de jeunes et des paysans. Et en dernier lieu, cette stratégie a comme quatrième axe l'économie du marché, c'est-à-dire faire la promotion des consommations responsables et les circuits courts dans les ménages paysans.
Adopter une stratégie, c'est bon, mais quels sont les mécanismes de suivi que vous avez mis en place pour l'effectivité de cette stratégie provinciale?
Nous avions prévu plusieurs mécanismes, entre autres les suivis continus. Ici, il s'agit de faire les activités, vérifier les indicateurs de performance. Ce mécanisme vise aussi à détecter les dysfonctionnements de la stratégie, où est-ce que les problèmes se posent. Nous allons faire chaque fois des évaluations périodiques, c'est-à-dire vérifier à mi-parcours qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Nous aurons des revues participatives, c'est-à-dire impliquer toutes les parties prenantes locales afin de vérifier ensemble les résultats. Là, dans les mécanismes de suivi, nous avions prévu plusieurs outils de suivi tels que les cadres logiques. Dans les cadres logiques, cela nous permettra à définir les objectifs, les indicateurs, les sources, les vérifications sur les hypothèses. Et nous aurons les outils tels que les dashboards. Dans les dashboards, nous aurons un tableau ou instrument de visualisation pour vérifier qu'est-ce que nous avons fait, quand, où et comment ça a été fait. Et s'il y a les imperfections, comment nous pouvons améliorer toutes ces imperfections. Et nous pouvons faire même les enquêtes, les sondages, les systèmes numériques, plusieurs outils ont été consacrés pour un bon suivi et évaluation.
CBCS, après avoir doté le gouvernement provincial de cette stratégie, nous osons croire que vous resterez toujours aux côtés du gouvernement provincial pour l'accompagner dans la mise en œuvre.
C'est ce que nous avions opté parce que nous aurons un task force que nous allons installer après avoir validé cette stratégie. Nous aurons un comité de pilotage au travers lequel CBCS restera toujours aux côtés du gouvernement en tant que conseiller. conseiller et étant qu'accompagnateur pour faire des plaidoyers au niveau national et au niveau international afin que qu'il y ait l'effectivité de cette stratégie provinciale sur l'agroécologie.
Et si une fois cette stratégie est mise en place telle que déterminée dans votre document, ça peut apporter quel changement dans les systèmes agroécologiques de la province?
Comme vous le savez, madame, nous voulons que les paysans adoptent des pratiques qui sont adaptées pour préserver l'environnement et valoriser la sécurité alimentaire au niveau des communautés locales et au niveau du peuple autochtone. Bref, la stratégie provinciale est une feuille de route au travers laquelle la province doit s'inspirer pour valoriser l'agriculture durable et les paysans, les peuples autochtones, la population, les jeunes et les parties prenantes doivent s'inspirer pour une bonne pratique agricole.
Monsieur Raphaël Mutianga Kaloumé, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, madame.
C'était notre invité Raphaël Mutianga Kaloumé Kasambi qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée par Jean Gandou Kabongo et supervisée par Lévin Mwingavubu. La mise en onde est assurée par Billy Landribetou. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix et bon week-end chez vous.